Mémoire vive,
présentée par Eve Chaptel,
préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. En 2011, une polémique éclata à l'occasion du 50e anniversaire de la mort de Céline, quand il fut décidé de le retirer de la liste des célébrations nationales de cette année-là, après une protestation qui avait été émise notamment par l'Association des fils et filles de déportés juifs de France, de Serge Klarsfeld. Ce retrait donna lui-même lieu à de vives protestations. Un académicien, auteur d'une biographie sur Céline, déclara ainsi « On ne peut tout de même pas nier que c'est l'un des plus grands écrivains français ». Et le célinien Henri Godard résuma ainsi le débat. « Peut-on célébrer Céline ? Les objections sont trop évidentes. Il a été l'homme d'un antisémitisme virulent, mais il est aussi l'auteur d'une œuvre romanesque dont il est devenu commun de dire qu'avec celle de Proust, elle domine le roman français de la première moitié du XXe siècle. » Bonjour Annick Durafour et Pierre-André Taguieff.
Bonjour.
Vous êtes en ligne avec nous. Nous vous avons invité à parler de votre dernier ouvrage écrit à quatre mains, Céline, la race, le juif, dont le sous-titre est « Légende littéraire et vérité historique ». Une somme de 1180 pages publiée chez Fayard et qui veut en finir, hein, vous me direz si vous êtes d'accord avec ça, avec ce débat interminable, hein, ce sont vos termes, qui entoure cet écrivain, cette figure du salaud génial.
Le renversement de la question, c'est pas exactement comment l'auteur de Bagatelle a-t-il pu écrire le voyage, puisque Bagatelle est postérieur au voyage. Là, en fait, je suis passée par la lecture attentive de la correspondance, des écrits de Céline, et avant le voyage. Et là, on se rend compte que l'image qu'on se fait de Céline, même auteur de voyage, ne correspond absolument pas à ce qu'est l'homme Céline dans sa correspondance et dans ses écrits sur les assurances sociales. Et alors c'est pour ça que effectivement je renverse la question et je me demande comment cet homme qui, en 32, est globalement anti-humaniste, anti-progressiste, anti-socialiste, depuis 1916, émet de temps en temps des idées, des petites idées racistes et antisémites, comment cet homme-là a-t-il pu écrire le voyage ? Vous voyez ?
D'accord.
Donc il y a effectivement un renversement de la question.
Et aussi, il semble que au-delà du renversement, vous êtes en quelque sorte les premiers, ou parmi les premiers, hein, vous citez aussi quelques biographes qui ont fait le travail sérieusement, vous êtes vraiment posé la question, avoir pris au sérieux ces idées, en fait. C'est-à-dire lui qui, justement, disait « elles n'ont pas d'importance, les idées ».
Oui, c'est une question fondamentale. Vous savez, dans la mythologie célinienne, celle que Céline a fabriquée lui-même et que les cercles de célinophiles et célinolâtres ont indéfiniment reconduite, on peut dire que Céline déclare qu'il n'a pas d'idées, que les idées n'ont aucune importance et qu'il les méprise. Il a une posture de mépris à l'égard des idéas, comme il dit. Il ironise sur la question. Mais en fait, c'est un propagandiste. Ce que nous découvrons et ce que nous démontrons dans notre livre, c'est que Céline est un diffuseur d'idées, qu'il a des idées, ces idées étant précisément, essentiellement, raciste et anti-juive.
D'accord.
Alors, moi j'enchaîne sur le fait que connaître l'homme et ses idées en dehors de ses romans, à mon avis, ça permet de lire autrement les romans. Ça permet d'entendre aussi, en fait, la voix de l'idéologue qui se glisse dans les romans. Le génie et le salaud, et que finalement c'est trompeur et qu'on n'arrive plus à réfléchir. C'est-à-dire qu'on ne peut, à mon avis, ni complètement dissocier le génie du salaud, ni complètement les superposer. On ne peut pas les superposer parce que quand Céline écrit un roman, malgré tout, c'est ce qu'il fait, il n'écrit pas un pamphlet. Mais, à l'inverse, on ne peut pas non plus complètement les dissocier parce que, d'abord, il met sa plume et son style au service de la haine meurtrière, au service du racisme et de l'antisémitisme dans les pamphlets, et puis que, par ailleurs, le romancier est quand même, en même temps, un idéologue qui glisse ses petites idées dans Voyage. Il y a des idées dans Voyage, alors qu'ils ne sont pas encore, évidemment, les idées hitlériennes, encore que le jazz caractérisé comme musique négro-judéo-saxonne, ça sent la propagande hitlérienne des années 27-28. gratuite. Vous voyez, c'est comme ça que la propagande hitlérienne parle du jazz, comme salissure judéo-nègre. Hein. Il y a une analyse de Taïev sur ce passage-là. Et puis, on trouve dans Voyage, alors, des idées, moi que je dirais bêtes ou odieuses, sur les Noirs. Alors, les Noirs sont présentés comme anthropophages. Les Noirs relèvent de la misère incurable et innée. Il utilise des personnages, en fait, comme porte-parole pour dire que les nègres, c'est tout crevé, tout pourri, surexcité et croisseur. Et puis, je pourrais vous en dire comme ça sur les femmes. Les femmes, ça ne médite jamais. La haine, c'est le piment vital de l'existence. Enfin, vous voyez, il y a toutes sortes de maximes, de formules péremptoires, de jugements à l'emporte-pièce qui trahissent tout de même déjà, dès le Voyage, l'idéologue, même s'il se déguise, même s'il se masque d'une certaine manière dans la voix, avec la voix de Bardamu.
Je ne vous ai pas présenté Annick Durafour, donc vous êtes agrégée de lettres modernes, hein, vous étiez plutôt la littéraire de l'entreprise. Pierre-André Taguieff, vous êtes directeur de recherche au CNRS, l'auteur de nombreux ouvrages. Alors, justement, sur la judéophobie, le nationalisme, le populisme et les théories du complot sur les protocoles sages de Sion, je pense que votre formation intellectuelle vous disposait tout particulièrement à faire ce travail qu'il était temps que quelqu'un le fasse, c'est-à-dire de nous dire, mais en fait, qui était vraiment Céline ? Comment Céline s'est inscrite dans l'antisémitisme racial et biologique qui se développe dans les années 30 ? Quelle place, voilà, qu'est-ce qu'il a fait pendant la guerre exactement, etc. Alors là, j'aimerais bien vous entendre parce que ça, c'est vraiment la révélation de votre livre.
Oui, effectivement, mais disons que moi, je situe le cas Céline et son antisémitisme en particulier dans l'histoire relativement longue des antisémitismes en France et plus largement en Europe. Le problème, c'est que la légende célinienne, que nous critiquons bien sûr dans le livre, c'est notre point de départ en tout cas, cette légende célinienne va de pair avec une esthétisation de l'écrivain génial, irresponsable et intouchable, voyez-vous. Or, Céline, et nous le démontrons dans le livre, a été, en dépit de ses dénégations d'après-guerre, un écrivain engagé qui avait des idées, des passions politiques. Il écrit par exemple à Brasillac en juin 39 « Je suis raciste et hitlérien, vous n'ignorez pas ». Et il ajoute « Je hais le juif, les juifs, la juiverie absolument, fondamentalement, instinctivement, de toutes les façons, une haine parfaite ». Fin de citation. Et cette lettre, Brasillac refusera de la publier dans « Je suis partout », comme d'autres par la suite.
C'est ça. Comme vous dites, il n'est pas marginal dans ce paysage-là. Il est vraiment... Il est le plus extrémiste, mais un extrémiste central aussi, en même temps, dans la propagande.
De loin, un antisémite exceptionnel, comme on l'a dit. Il est exceptionnel, c'est un antisémite génial, dans l'ordre de l'antisémitisme, voyez-vous, si je puis dire. Céline, par son pro-hitlérisme inconditionnel et son extrémisme anti-juif, a réussi à choquer même la direction de l'hebdomadaire fasciste « Je suis partout ».
Et du genre à trouver que l'antisémitisme de Maurras était presque suspect, était trop tendre, quoi.
Il dénonce Maurras régulièrement, non seulement dans ses pamphlets, mais dans ses lettres aux journaux sous l'occupation, dans sa correspondance, etc. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'antisémitisme célinien est un antiracisme racial, antichrétien et conspirationniste. Et il ne se confond pas avec l'antisémitisme nationaliste et xénophobe, précisément de l'Action française.
De l'Action française, d'accord.
De Charles
Maurras. C'est autre chose.
Ou de Marcel Jouandeau, ou même du premier Bernanos, celui qui fait l'apologie en 31 d'Édouard Drummond. Il ne se confond pas non plus avec les pointes anti-juives qu'on trouve chez les frères Tarot, ou chez Paul Morand, par exemple, ni même avec l'anti-judaïsme des catholiques intégristes qui tourne autour de Monseigneur Join au début des années 30, voyez-vous. Je dirais que Céline est le seul écrivain digne de ce nom qui est directement tributaire de l'antisémitisme nazi dans lequel l'ennemi absolu est le bolchevisme juif. Et on peut dire que, pour aller vite, hein, bien sûr, que Céline déchristianise l'antisémitisme en le biologisant, en faisant une question raciale à travers laquelle il reformule tous les problèmes sociaux, politiques et culturels. Je cite l'école des cadavres de 1938, son deuxième pamphlet anti-juif, le problème racial de néfaste oblitère tous les autres. Voilà la spécificité de Céline, voyez-vous. Il ne faut pas le confondre avec la masse des anti-juifs des années 30, qui sont soit des écrivains qui donnent de temps à autre dans l'antisémitisme, qui est effectivement assez largement répandu. Il ne faut pas le confondre non plus avec ceux desquels il est le plus proche, en fin de compte, c'est-à-dire les folliculaires, les stipendiés par la propagande nazie à partir de 1933-1934, comme Henri Coston, Henri Robert Petit, qui est son informateur d'ailleurs, et ou d'Arquette Pellepoix, voyez-vous.
D'accord. Et vous, vous allez même plus loin, c'est-à-dire que vous dites il n'a pas... c'est pas un antisémite de salon ou autre, mais c'est pas simplement non plus un propagandiste. Vous en faites en tout cas un véritable agent d'influence, hein, quelque sorte de l'Allemagne nazie, là, si on en vient à la période de la guerre.
Effectivement, c'est un agent d'influence idéologique, et c'est ce sur quoi les analyses d'Annick Durafour, et c'est le produit de ses recherches, ont fait la lumière.
Ce qu'on connaissait déjà, ce sont quand même les déclarations de Hans Grimm, qui dirige le service des renseignements généraux à Rennes, hein, et qui déclarait déjà lors de son procès à Leipzig que Céline s'était présentée à lui avec une recommandation de Knorren, qui dirige la police allemande en France, et qu'il effectuait des missions pour la Gestapo à Saint-Malo. Ce que j'ai découvert grâce à l'ouverture des archives, de certaines archives relatives à la Seconde Guerre mondiale, ce sont les déclarations de Knorren, qui donc dirige les services de renseignement allemands en France. Et donc, sur la base des auditions de Knorren, la Direction générale des renseignements généraux établit une liste de 45 agents d'ennemis, parmi lesquels Céline est identifié comme agent du SD, c'est-à-dire agent du service de renseignement, écrivain, agent du SD, réfugié au Danemark, vous voyez. Plus tard, il est entendu à nouveau, il est interrogé par les renseignements généraux, et là, Knorren l'identifie comme un collaborateur volontaire des services allemands. Ça veut dire que... Alors, évidemment, on n'était pas dans les bureaux et on ne sait pas exactement ce que Céline a dit, a fait avec ses services allemands. On peut tout de même en avoir une petite idée, par exemple, lorsque, d'après ce que je crois montrer, lorsqu'il apprend en fait l'extermination en cours à l'été 42, il demande quand même rendez-vous à Fernand Brinon et à être introduit auprès de Bebelburg qui dirige la Gestapo. Donc, vous voyez, l'enchaînement des faits montre que, bon, Céline est le seul...
Il avait de l'entregent quand même, il était...
Il avait de l'entregent, ouais. Il était très bien introduit auprès de plusieurs hauts responsables des
SS. Hein,
il allait directement voir les responsables. Hein. Donc là, on peut imaginer qu'il était tout à fait empressé à donner ses conseils. Vous voyez, c'était l'ami même personnel de Hermann Bickler, qui dirige le bureau 6, c'est-à-dire le chef des renseignements politiques pour l'Europe occidentale.
Et donc, j'ai envie de vous poser une question assez directe. À l'aune de vos recherches à tous les deux, est-ce qu'on peut dire que Céline, donc celui qu'on a failli célébrer en 2011, si Charles Klarsfeld n'avait pas veillé au grain, qu'il a participé à la mise en œuvre de la solution finale en France, de l'extermination des Juifs juifs de France.
Oui, alors, je ne vais pas faire de Céline, je ne sais pas, un Bousquet ou un Laval, vous voyez, il n'avait pas... Mais disons qu'il a dû jouer le rôle de conseiller, d'informateur. Alors,
ses appels au meurtre aussi.
Évidemment, avant, hein, pendant la guerre. Et puis, pendant la guerre, vous avez toutes les lettres aux journaux, il y en a une trentaine environ, et dans ces lettres, alors là, il pousse vraiment à la radicalisation de la politique anti-juive, c'est très clair. En gros, pour lui, il faut agir, il faut aller vite. Pétain et Laval, enfin, Vichy, c'est trop tiède, c'est trop mou, il faut passer à l'action, vous voyez. Donc, c'est vraiment le... enfin, c'est le nouveau prophète, c'est le guide de tous les anti-juifs, quoi, dans Paris. Hein, c'est le modèle, il est écouté, repris, cité sans arrêt dans la presse la plus extrémiste, la plus collaborationniste, jusqu'au journal Au Pilori, qui est le journal de délation et de chantage sous l'occupation. On ne fait pas pire, si vous voulez, qu'Au Pilori, et c'est le journal dont Céline est le plus proche.
Vous montrez aussi qu'il a même dénoncé certaines personnes. Votre livre est d'ailleurs dédié à Georges Zerafa et Dr Hogarth. Ouais.
Voilà, exactement. Mmh. Oui, effectivement. Juste là, si vous voulez, la légende célinienne parlait de l'antisémitisme littéraire, d'un antisémitisme purement verbal. Tout ça ne tient plus, parce que Céline est passée à l'acte avec les dénonciations. Mmh. Hein. Et ce n'est pas étonnant, vu son racisme fanatique et son souci d'efficacité dans l'action. Et alors là, je peux vous dire les noms, ne serait-ce que pour mémoire, les noms des gens qu'il dénonce. Il dénonce le docteur Makiewicz, il dénonce Robert Desnos, Charles Cros, le docteur Ouyan. Il donne une information délatrice à Karl Epting, et c'est à la suite de cette information que la police allemande recherche un jeune communiste dans les environs de Quimper. Il dénonce Victor Barthélémy, alors cette fois-ci par lettre privée qu'il apporte lui-même à Doriot. Et puis il dénonce deux communistes, le docteur Rouquès, dans la préface à la réédition de l'École des cadavres, et donc ce jeune communiste dont je vous parlais près de Quimper. Et puis enfin il dénonce le docteur Hogarth, hein, qui est un médecin haïtien, diplômé français, qui dirige en fait, qui est le médecin-chef du dispensaire de Beson depuis 1929. Céline, à l'automne 40, cherche du travail, veut un poste en dispensaire, et il apprend, bon, on ne sait comment, que ce poste est occupé par un, je le cite, médecin juif étranger non naturalisé qui doit être licencié, dit-il dans sa première lettre de dénonciation, qu'il adresse au maire, au nouveau maire nommé par Vichy de la ville de Beson. Apparemment il rencontre des résistances, il s'adresse directement au directeur de la santé à Paris, le docteur Cadvel, et là il a appris en fait que le docteur Hogarth n'était pas juif, et donc il le dénonce comme nègre haïtien qui doit normalement être renvoyé à Haïti d'après les décrets en vigueur. Mmh. Et donc, enfin, il va jusqu'au, par l'intermédiaire d'un ami, jusqu'au ministre de l'Intérieur, Marcel Perrouteau. Vous voyez,
d'accord. Donc, il alerte. Donc, en plus, il était, voilà, c'est un des ressorts de l'antisémitisme, hein, c'est aussi l'opportunisme, essayer de prendre la place des juifs. Il y a une question aussi qu'on se pose, c'est après tout ce qu'il a fait, malheureusement, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails, mais je renvoie évidemment les auditeurs à votre ouvrage. Après la guerre, comment ça se fait qu'il a pu, lui, échapper à l'épuration, à un procès, voire à la peine de mort, la différence de Brasillach, par exemple?
Mais écoutez, là, Céline, vous savez, Céline est quelqu'un de rusé, de stratège. C'est le premier à partir. Hein. Junger le note avec amusement. Celui qui demandait qu'on fusille et qu'on mitraille est le premier à faire ses valises, parce que quand il sent que ça tourne mal. Et donc, il se met au frais, si je puis dire, au Danemark. Il est loin. Donc, il va être jugé par contumace bien plus tard. Il est jugé d'abord la première fois en 1950 et puis amnistié en 1951. Donc, les passions, petit à petit, se sont calmées.
Voyez, et pourtant, il reste des écrits, beaucoup d'écrits. Son rôle est connu. Comment il a pu organiser son irresponsabilité, j'ai envie de dire, comment on organise son insolvabilité?
Alors, d'abord, il est jugé par contumace, et alors là, il utilise aussi, en fait, je dois dire d'abord que le dossier était tout de même incomplet. On en sait beaucoup plus aujourd'hui qu'on en savait à l'époque, ça c'est une chose. Mais Céline, en fait, va être très habile et va utiliser finalement son talent d'écrivain, sa notoriété, et le rire, et le comique, et la pitié, et la maladie, et il va écrire des lettres au président Drapier et au commissaire du gouvernement Charras, alors des lettres tellement familières, tellement irrespectueuses, si vous voulez, et en même temps comiques, où il se fait passer pour demi-fou, que finalement on n'arrive pas à le prendre au sérieux. Charras se dit, mais un homme comme ça ne peut pas avoir collaboré sérieusement, et le procès, alors ça c'est décrit même par François Gibault, le procès tourne à certains moments à la rigolade, parce que ce qu'on entend, c'est Céline Lepitre. Et Céline va faire le pitre pour sauver l'Hitlérien. Et ça a marché. Le commissaire de gouvernement est finalement flatté aussi de recevoir des lettres du grand écrivain. Enfin, c'est
d'accord, une opération de blanchiment, d'auto-blanchiment. Alors justement, voilà. Pierre-André Taguieff, c'est aussi l'un des apports de votre livre, c'est de montrer qu'en fait, il a forgé sa propre légende, celle dans laquelle on est tous, on s'est tous fait avoir un peu par ça. La légende de l'écrivain maudit, on en a parlé tout à l'heure, la légende du pur style, les idées sont sans importance, etc. Et en fait, que ce soit avant-guerre ou après, beaucoup sont tombés dans le panneau. Gide disant « la juiverie n'est qu'un prétexte », Solers, alors vous le citez dans la préface, qui dit que le crime de Céline, s'il y en a un, c'est de faire rire, et qu'au contraire, le crime des crimes, c'est l'esprit de sérieux, donc ça serait vous, les vrais criminels qui avaient pris au sérieux ces idées, non, c'est quand même complètement fou.
Il y a de quoi rire.
Il y a de quoi rire ou pleurer, je ne sais pas, tellement que c'est dramatique, mais c'est vrai que... Et vous montrez aussi comment Céline a été... célébré par les négationnistes, lui-même en étant un, évidemment, a commencé par Forisson, qui compte vraiment parmi les Céliniens les plus fervents, et qu'il est sans doute aussi, ça vous pouvez nous le dire aussi, peut-être toujours très en vogue dans ces milieux-là, dans les milieux négationnistes d'extrême droite.
Oui, c'est-à-dire que la légende célinienne, qui est fondée sur... la légende du persécuté du bouc émissaire, hein, je vous rappelle ce que le 13 août 46, donc il était au Danemark, il écrit à sa femme, le persécuté c'est moi.
D'accord, c'est pas les juifs qui l'a envoyé.
C'est
pas les juifs qui l'a envoyé à la mort, c'est lui, quoi.
Voilà, ensuite il découvre que ce sont les Allemands les vrais persécutés, parce qu'il a lu Maurice Bardèche, qui est celui qui a le premier mis en question systématiquement le procès de Nuremberg, en présentant les Allemands comme les véritables victimes de la Seconde Guerre mondiale. Il reprend cette thématique négationniste, et tout naturellement, lorsqu'il lit le livre de Racine, il reçoit d'ailleurs un exemplaire de Racine, avec un paraphe dédicacé, je cite, à Louis-Ferdinand Céline, en témoignage d'admiration et de solidarité. Eh bien, Céline salue aussitôt cet ouvrage, qui, comme vous le savez, est le fondateur de l'école négationniste en France, et dans une lettre à son ami Parage, qui est un anarchiste d'extrême droite, écrivain de Moron, le 8 novembre 1950, c'est une lettre extrêmement importante parce que elle sacralise le doute sur les chambres à gaz. Il écrit ceci: Racine est certainement un honnête homme. Son livre admirable va faire grand bruit quand même. Il tente à faire douter de la magique chambre à gaz. Ce n'est pas peu. C'était tout la chambre à gaz. Ça permettait tout. Il faut que le diable trouve autre chose. Fin de citation. Voyez-vous ? Donc on peut dire qu'à partir de là, Racine d'ailleurs défend Céline au moment de son procès. Il crée en janvier 51 une société des amis de Céline. Céline et Racine deviennent des sortes de camarades de combat, voyez-vous. Forisson ensuite fait de la formule ironique, la magique chambre à gaz, son mantra. Il ne cesse de déclarer il ne cesse de reprendre la formule. Il déclare par exemple, pour être précis, en 2007, je cite Forisson, « Je pense être un vrai classique, mais à la manière moderne, celle de Louis-Ferdinand Céline, dont je partage les vues et les goûts en bien des manières. » Voyez-vous. Donc, voilà, c'est très clair. Et je dirais que après la guerre, donc Céline avait lancé un thème sloganique repris par tous les célinolâtres, « Mon seul crime est le pacifisme vigilant ». C'est-à-dire que lui qui avait appelé à la radicalisation de la politique anti-juive pendant 4 ans, devient un pacifiste vigilant, voyez-vous, alors qu'il était un antisémite vigilant.
Voilà, la ruse dont il accusait les juifs, voilà, il était
d'être
coupable, c'était lui le maître de la ruse.
Voilà, donc les juifs sont les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, c'est un thème qu'on trouve un peu partout, qui fait partie de l'héritage célinien. Les juifs sont les bénéficiaires de la Seconde Guerre mondiale, et dans les milieux, disons, racistes, xénophobes, anti-juifs, etc., à partir des années 70, 80, etc., on peut dire que Céline est une référence majeure. Et oui, j'ai été témoin moi-même d'une campagne menée par les milieux négationnistes à Paris, avec des autocollants du type Durafour, c'est pas Madame Durafour, c'est Durafour, le ministre. Durafour, ça chauffe les chambres à gaz. Et là, dans ce contexte-là, était apparue une inscription sur certains murs, « Lisez Céline vite ». Voyez-vous,
d'accord,
Céline,
ouais.
Vite. Donc le couplage du négationnisme et de la référence à Céline,
ouais.
C'est banalisé.
Ouais.
Et aujourd'hui, nous avons un célinien revendiqué comme Alain Soral, qui célèbre à la fois Céline et Racinier comme deux maîtres de vérité, ayant dénoncé, je cite Soral, la vision du vainqueur, légitimée par le procès de Nuremberg. En février 2011, Soral ose justifier ainsi l'antisémitisme du génial Céline, je cite, l'antijudaïsme est partagé par tous les génies littéraires du monde, hostile affirmé. Fin de citation. Oui, donc je dirais que la génération
Soral,
Dieudonné, a repris le flambeau, et rares sont les nouveaux antijuifs qui ne sont pas des célinophiles enthousiastes. C'est cela qui me frappe aujourd'hui.
Malheureusement, on va devoir s'arrêter là. Merci en tout cas, Annick Durafour et Pierre-André Taguieff, d'être venus à Mémoire Vive nous parler de votre ouvrage, Céline, la race, le juif. J'invite nos auditeurs à se procurer. C'était Mémoire Vive. Deux adresses pour nous retrouver, radio-rcj.info, mémoirevive.net. À dimanche prochain.